L'expérience commence. Comment les idées déplacent les corps? Ou comment, à l'inverse, se déplacer dans le monde, ça déplace les idées? Tessa Robinson est arrivée au Kurdistan irakien pour enseigner la philosophie. Elle enregistre la voix de trois de ses élèves, trois adolescentes kurdes qui préparent le baccalauréat français à Erbil. Ensemble, ce sont les notions philosophiques au programme, le langage, la liberté, le temps, qu'elles discutent et que les élèves confrontent à leur tradition et à leur culture. Ce sera finalement la dernière année en Irak pour Eline, Tara, Najla et pour leur professeur Tessa. Toutes auront été déplacées par cette rencontre. On partira du vieux bazar à Erbil pour arriver dans les rues enneigées de Montréal. Nous sommes guidés par Tessa Robinson et Alexandre Planck.
Je suis arrivée à Erbil, au Kurdistan irakien, début 2019. J'aurais dû rester un mois, finalement j'y suis restée 3 ans et demi. À la base, j'étais venue pour un projet complètement différent, puis je me suis retrouvée catapultée professeure de philosophie à l'école française. Cette année, c'est ma 4e fournée d'élèves. Ça sera aussi la dernière puisque j'ai pris la décision de quitter le pays à la fin de l'année scolaire. Avec les filles de la classe, on a décidé de se prendre un dernier petit déjeuner dans le bazar de la ville avant l'épreuve du bac. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport professeur-élève à l'école française d'Erbil n'est pas du tout le même que celui qu'on peut avoir dans les autres écoles. On est plus proches, on se parle plus, on se raconte nos problèmes. Je suis avec Najla, Tara et Eline. Elles ont toutes les trois 18 ans. Contrairement à l'image qu'on peut avoir en Europe, le voile n'est pas obligatoire au Kurdistan irakien comme c'est le cas par exemple en Iran. Aucune de mes élèves ne porte le voile.
Ça c'est le meilleur kebab d'Erbil, kebab yassé. Oui, c'est très connu, vraiment connu. Et c'est depuis longtemps.
Eline, Tara et Najla, Dérives philosophiques au Kurdistan, un documentaire de Tessa Robinson et Alexandre Planck.
Je m'appelle Rada Najla. Mon nom est Rada, mon prénom est Najla. Et je suis née en 2004 dans un petit village qui est Obarzan. C'est un grand village. Je suis venue à Erbil depuis 11 ans. Et ça fait depuis 11 ans que je suis dans l'école française Daniel Mitterrand.
Najla, c'est la grande bavarde de la classe. Elle n'arrête jamais. Elle est d'origine kurde et vient d'une famille qui est quand même plus aisée que les autres. Elle adore acheter des trucs et négocier le prix. C'est une petite businesswoman. Elle porte toujours de gros bijoux en or. D'après elle, c'est un atout pour faire des bonnes affaires.
Je m'appelle Tara Najim. J'habite à Erbil et je suis née à Erbil. Et je suis née en 2004 et j'ai fait mes études en école française.
Tara est un peu réservée, mais elle a un caractère bien trempé. Quand elle a quelque chose à dire, elle n'hésite pas à le faire savoir. Elle est d'origine kurde et turkmène. Son père a une boutique dans le bazar, donc elle le connaît comme sa poche.
Je m'appelle Eline, j'ai 18 ans, j'habite à Erbil. Et je suis à Erbil dès ma naissance, mais j'ai déménagé à Baharka quand j'avais 7 ans.
Eline, c'est la meilleure amie de Tara. Elles sont tout le temps fourrées ensemble. C'est quelqu'un d'assez posé et de réfléchi. C'est un peu la fille cool de la classe, avec ses petites converses et ses bombers. Elle aussi est d'origine kurde.
Est-ce qu'on peut dire le mot en kurde? Les trucs qu'on a commandés, on a commandé le fromage kurde, avec les œufs, avec le parlama. C'est une nourriture kurde et mix de turc aussi. Et la thé, le yaourt kurde, car le yaourt kurde est différent que celle qu'on achète dans les magasins. Et avec le fromage surtout, on a un bon fromage que sa goût est trop bien et délicieuse. J'espère que vous allez manger et vous allez aimer.
La première fois que j'ai mis les pieds au Kurdistan, je me suis demandé ce que je faisais là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'Européens, on ne comprend rien à tout ce qui se passe autour de nous. Déjà d'un point de vue politique. Le Kurdistan, en fait, c'est quoi? C'est un pays non reconnu qui s'étale sur l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie. Seule la région du Kurdistan d'Irak est autonome depuis 2005. Les Kurdes sont encore oppressés en Turquie, en Iran et en Syrie, la situation est encore très compliquée. Aussi, on parle d'ethnie kurde, c'est-à-dire que ce ne sont ni des Arabes, ni des Perses. Puis, à tout ça s'ajoutent des acteurs extérieurs, des tensions qui complexifient encore plus la situation. Ensuite, D'un point de vue linguistique, rien qu'à Erbil, on parle arabe, mais pas kurde dans certains quartiers, ou alors kurde, mais pas arabe, ou alors araméen, mais pas kurde.
Vous n'êtes jamais venu ici, hein ?
Non, on n'est jamais venu ici, mais dans le bazar, j'ai essayé plusieurs restaurants différents. Surtout celle qu'on a vue ensemble, le kebab. C'était vraiment délicieux et j'aimais beaucoup.
L'une des premières notions qu'on doit aborder au programme de philosophie en terminale, c'est le langage. On essaye de s'interroger sur son utilité, s'il n'est qu'un simple outil pour notre pensée ou bien si justement il est indispensable à la production de notre pensée elle-même. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte de l'étendue de ce bazar linguistique et des potentiels problèmes de compréhension que cela pouvait engendrer.
Ici, on est tous multilingues. Chacun parle au moins trois langues. Je parle en kurde, en différents dialectes, celle de Badini et celle de Sorani, et que je sais les deux, l'arabe, l'anglais, le français, et je veux savoir aussi l'espagnol.
Et moi, je parle en turc, français, anglais et kurde.
Moi, je parle kurde, Sorani et Badini, les deux dialectes, anglais, français, arabe et persan. Parce que, à cause de la guerre, mes parents étaient obligés d'aller en Iran et ils étaient nés là-bas. Mais au 2000, ils sont retournés en Irak, mais ils continuent à parler en persan parce que c'était une partie de leur culture aussi, parce qu'ils parlent beaucoup là-bas. Ils étaient partis à l'école là-bas aussi. Alors jusqu'à maintenant, si ma famille parle persan, ils utilisent des mots persans. Avant là-bas, ils étaient vraiment pas accepté dans la société parce qu'ils étaient considérés comme kurdes là-bas. Mais après qu'ils étaient retournés en Irak, ils n'étaient pas acceptés aussi parce qu'ils étaient considérés comme iraniens, persans. Alors c'était très difficile pour eux. Alors ils continuaient à parler en persan, même pour les chaînes de nouvelles, les films. Avant, quand j'étais petite, on le regardait tout en persan. C'est pour ça que je parle bien en persan, mais pas autant parce que maintenant, mon père, personnellement, il dit que vous êtes kurde, vous ne pouvez pas vraiment parler en persan. Et on évite vraiment d'utiliser les mots en persan.
Ce que nous explique Eline, c'est que beaucoup de Kurdes se sont réfugiés en Iran pendant la guerre Iran-Irak dans les années 80. L'immense problème, et qui est malheureusement toute l'histoire des Kurdes, c'est que l'Iran ne les tolère pas. Il était et il est toujours interdit d'y parler le kurde. Ensuite, lorsque ces gens revenaient en Irak, ils étaient considérés comme des ennemis iraniens. C'est pour cette raison que les Kurdes disent qu'ils n'ont pas d'amis sauf la montagne.
On peut dire que c'est tout le temps c'est mélangé. Il y a des mots que, par exemple, si je parle en kurde, il y a des mots que je ne sais même pas de dire. Alors je dis en français ou pas en français, je dis en anglais. Ou en anglais, je veux dire en arabe. Vraiment, c'est beaucoup mélangé. Il y a des fois que moi, comme personnellement, je suis kurde. Alors ma langue maternelle, c'est kurde. Il y a des fois que je me pose la question... Ah, papa, peux-tu me dire ce mot en kurde ? Ou maman, tu peux me dire ce mot en kurde ? Car je sais pas, je n'arrive pas à dire en kurde, alors que c'est ma langue maternelle. Il y a des fois, avec les amis, on parle en anglais ou en français ou en arabe. Même à la maison, on a différentes langues qu'on utilise. Par exemple, si on veut pas que nos parents sachent de quoi on parle en français, car ils ne sachent pas. Mais surtout, ici, les gens parlent en arabe et en anglais. Ces deux langues sont vraiment importantes pour notre société.
Même les gens qui ne sont pas éduqués ou ne sont pas allés à l'école, ils savent déjà l'arabe et l'anglais.
Oui.
Ils ne savaient pas parler en kurde, pas du tout.
Ça, c'est un gros problème pour notre société. C'est que maintenant, les gens pensent qu'on a oublié vraiment notre langue maternelle et qu'on utilise beaucoup l'anglais. Les gens disent que... ça va être un gros problème pour en futur de perdre notre langue. Car on voit très bien avec les évolutions, il y a des langues qui sont perdues et qu'on peut être un de ces langues si on utilise beaucoup l'anglais et l'arabe.
Quand on a commencé l'année, personne ne connaissait le mot « conscience » en kurde. Ils pensaient qu'il n'existait pas dans leur dictionnaire. Apparemment, c'est un mot qui est très peu utilisé. Et je crois que c'est la première chose qui m'a vraiment marquée cette année. D'un point de vue culturel, les Kurdes sont très peu tournés vers l'individu. Tout est pour le collectif et ça se reflète dans leur langage.
On va aller dans le bazar pour faire du shopping.
Maintenant ? Oui, maintenant. Je veux acheter des trucs. Car je ne viens pas dans le bazar si j'achète rien de tout. Je dois acheter quelque chose.
On doit tout le temps acheter quelque chose.
Pour moi, la village était un lieu spécial. c'est qu'on était tout ensemble tout le temps quand on était petit. On est allé dans des forêts pour jouer avec mes camarades. Et il y avait certains jeux que moi, je ne sais pas en français, mais qui sont traditionnels pour nous, les Kurdes, et qu'on faisait tout le temps, toutes les nuits et le jour aussi, et le soir surtout. On jouait et tout ensemble et on était vraiment contents. Je suis arrivée à l'école française depuis CP. Et jusqu'à maintenant, je suis ici et je vais partir au Canada. J'ai choisi comme étude la Sciences Po dans l'Université de Montréal, à Montréal, au Québec. C'est depuis longtemps que je veux être l'ambassadrice de l'Irak et surtout quand l'ambassadeur de France qui était venu en Irak et qui était venu dans notre établissement, il m'a dit que je te vois de devenir l'ambassadrice de l'Irak et il m'appelle notre petite ambassadrice.
Najla a grandi dans les montagnes du Barzan. Elle fait partie d'une famille qui est très influente dans la région. C'est une fille curieuse, pleine de vie, qui a aussi toujours eu beaucoup d'ambition.
Et on est là aujourd'hui pour visiter le bazar avec vous et pour faire une émission de radio. Je suis contente d'être ici et j'espère qu'on va faire une bonne visite avec nous tous dans ce bazar. C'est le grand bazar de notre cité et avec la citadelle, comme vous voyez, on a une belle citadelle.
La sortie au bazar, c'est vraiment une sortie particulière pour les filles, si ce n'est la sortie du mois. Elles se sont toutes beaucoup maquillées, beaucoup coiffées, beaucoup habillées pour l'occasion.
Par exemple, il y a une place différente pour les hommes que les femmes. Par exemple, ici, c'est que pour les hommes. Les hommes achètent ici, alors que les femmes, ils peuvent acheter dans le bazar. Mais c'est un grand bazar qu'on ne peut même pas.
Et au bazar, on ne doit pas faire des maquillages, car tout le monde va tout regarder comme une chose. Ce n'est pas normal. Oui.
Comme maintenant, oui. On ne doit pas mettre ces trucs-là.
Madame, l'autre jour, quand on est venu, il y avait moi et Jacques qu'on est restés. Des commentaires, madame.
Juste qu'elle a mis quelque chose,
un
t-shirt court. Elles ont dit beaucoup de commentaires sur nous deux. Alors qu'ils ne nous connaissent même pas,
oui,
on est qui. Si on met un robe, là c'est catastrophe pour nous.
Ah oui.
Oui, car ils vont regarder d'une manière pas bien du tout. Après, le problème c'est qu'ils vont dire comme des grands mots à nous, alors que c'est eux qui nous regardent.
C'est la première chose, le plus important, l'honneur.
Pour nous, le plus important, c'est la liberté, alors qu'ici...
Ok, elle est revenue.
La difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à enseigner, c'est que je suis arrivée avec nos concepts européens de démocratie, de liberté, de justice, d'égalité, qui me semblaient évidents et valables. Tout ça a de fait été chamboulé par une réalité qui était complètement différente de la mienne. Et c'est ce qui s'est passé avec la notion de liberté qui, je crois, a fait le plus débat cette année. Ce qui naïvement m'a surprise. Je me disais qu'il n'y avait plus lieu d'avoir un débat sur un tel sujet.
Alors, la liberté pour moi personnellement, avec certaines limites, pour moi la liberté est de sortir quand je veux, rentrer chez moi quand je veux, parler avec qui je veux, faire ce que je veux. Si je suis libre ici, je suis considérée comme un animal sauvage qui n'a pas de famille. Parce que ici, c'est la famille qui donne l'éducation de l'enfant. Alors si je fais quelque chose qui casse la réputation de ma famille, et les gens vont dire à ma famille, mais c'est votre faute parce que c'est vous qui donne une éducation à votre enfant et c'est vous qui doit le dire de ne pas faire certaines choses. Alors moi, vraiment, j'ai pas une définition certaine de la liberté parce que j'ai pas la liberté. Je sais pas c'est quoi la liberté vraiment.
Si on sait pas c'est quoi la liberté, comment on peut la demander quelque chose qu'on ne sait même pas c'est quoi?
Par exemple, avoir la liberté comme les hommes.
Tara a beaucoup changé tout au long de l'année. Elle s'est affirmée et a développé un discours féministe de plus en plus engagé.
Je me souviens quand, la première fois que j'ai venu dans cette école, c'était incroyable, je ne comprenais rien. Et quand j'étais rentrée, j'étais choquée. Ça fait 12 ans que je suis là, de le CP, oui, jusqu'à maintenant que je suis en terminale, et je vais finir mon dernière année, et je vais partir en université, en France. Je peux avoir mes propres choix, je peux avoir mes propres décisions, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas une autre personne qui prend des décisions à ma place. Je dois prendre mes responsabilités. Donc, à mon avis, je vais grandir.
Ça, je pense que la première chose, c'est une femme et un homme ne sont pas totalement la même chose. Par exemple, il y a des choses que eux, ils peuvent, elles peuvent, mais moi, je ne peux pas. Comme il y a des choses que moi, je peux, elles ne peuvent pas.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples?
Aza, c'est un peu le cancre de la classe. Moins il en fait, mieux il se porte. Mais c'est un élève intelligent et débrouillard. Pour moi, c'est vraiment un goupil. Il est toujours dans plein de business. D'ailleurs, après l'école, il travaille en tant qu'agent immobilier. Il faut entendre que Aza a été éduqué dans une certaine culture, dans un certain milieu, dans une certaine réalité, qui sont parfois compliquées à remettre entièrement en question.
Par exemple, un homme, quand il est marié, même avant le mariage, il doit toujours être en travail, travailler pour la famille, je ne sais pas quoi. Mais une femme, même si elle ne travaille pas, on ne dit jamais rien à elle.
Oui, bien sûr, il y a encore des normes sociales. On a aussi parlé qu'il y a même les femmes qui étaient contre les femmes d'être libres. C'est pas toujours le cas. Ça dépend aux familles, ça dépend aux personnes aussi. Par exemple, pour les hommes, quand il est marié, il est obligé de travailler, il est obligé d'amener l'argent pour la famille. Et la femme, dans beaucoup de cas, elle est obligée de rester à la maison avec ses enfants. Alors, c'est pas toujours l'homme contre la femme.
Mais une femme n'est pas obligée de rester à la maison. Elle choisit de rester à la maison ou de travailler.
C'est les normes, je dis.
Et on a beaucoup, beaucoup de femmes ici qui travaillent et personne ne dit aucune chose. Même, on le voit avec de l'honneur. Mais moi, je dis qu'elles peuvent choisir de même ne pas travailler. Et personne ne commande de préjuge ou aucune chose. Mais par exemple, un homme comme moi, si je ne travaille pas, tout le monde veut dire qu'il veut juste se nourrir du femme et il veut juste prendre de l'argent des femmes, je ne sais pas quoi.
Si les femmes aussi ne travaillent pas, elles travaillent à la maison, elles font des tâches domestiques.
Non, moi,
oui, c'est tout le temps comme ça. Si les femmes travaillent au dehors de la maison aussi, elles doivent revenir à la maison et travailler les tâches domestiques. Vraiment, nous on doit faire toutes les choses, mais les hommes, ils ont comme un roi.
Nous on fait quoi de plus? Nous on fait les mêmes choses, on fait quoi de plus?
Si on te pose la question, si tu avais une sœur, est-ce que tu laissais de faire ce qu'elle veut ou d'avoir toutes les libertés ou tu devais donner des limites à elle?
Même moi, comme un garçon, j'ai aussi des limites. Je mettais aussi des limites pour ma sœur aussi.
Si tu ne changes pas notre société reste comme ça tout le temps.
Mais notre société va très très bien. Les autres. Notre société va très très bien. Et pourquoi le changer? Dans toutes les sociétés, il y a des problèmes. Mais
les hommes, c'est des petits problèmes. Mais pour nous, les c'est femmes, c'est des très, gros très grands problèmes.
Donc, une femme peut changer cette société, pas moi.
Mais personnellement, moi, je pense que la liberté des femmes et les droits de femmes, c'est pas un sujet qui est si minoritaire ici. 51% de la population irakienne sont des femmes. Alors, c'est pour ça la question, c'est pas, toutes les sociétés ont des problèmes. Le problème est pas mineur, le problème est majeur, le problème est très grand.
Les deux choses que j'ai appris pendant ces 4 ans d'enseignement, c'est à écouter. Mais vraiment à écouter. Puis, à me taire. Je me suis toujours dit que les cours de philosophie, c'était un endroit où on pouvait parler de tout. Ou en tout cas, où les élèves pouvaient parler de tout entre eux et en sécurité. Les laisser dialoguer, sans que je m'interpose, me semble être une chose primordiale. Surtout sur des sujets qui peuvent être tabous, voire interdits d'aborder en société. C'est d'ailleurs pour cela que certains propos, certains thèmes que nous avons évoqués en cours ne peuvent être partagés en dehors des murs de ma classe.
Jusqu'à 1990, les femmes n'avaient pas de droit d'éduquer ou avoir un travail. Mais comment tu dis, on n'a pas la même liberté comme les femmes, que femmes, elles peuvent rester à la maison. Les femmes aussi ne veulent pas rester à la maison.
Personnellement, moi, la famille me laisse de travailler ou de faire mes études. Mais ils m'ont dit aussi, si tu maries et si ton mari ne te laisse pas de travailler, tu dois l'accepter.
Oui.
Ça, c'est une famille personnelle, je ne sais pas moi.
Mais c'est la
matière. Généralement, c'est comme ça.
Généralement,
c'est comme ça. On ne dit pas, alors que toi, comme un homme, tu as d'autres avis sur les femmes. Mais généralement, c'est comme ça. La femme doit accepter ce que la famille dit ou ce que son mari lui dit ou ce que ses frères disent.
Par exemple, un homme peut financer sa femme sans que sa femme commande, elle travaille. Pourquoi la femme doit travailler? La femme peut rester avec ses enfants car comme on sait que les enfants sont plus adaptés à leur mère. Donc, elle peut beaucoup plus éduquer leurs enfants. Par exemple, on voit beaucoup de conséquences. Les femmes qui restent à la maison et qui éduquent leurs enfants sont beaucoup meilleurs que, par exemple, des autres qui ne passent pas leur temps avec leurs enfants pour qu'ils s'améliorent et progressent.
La question est plutôt culturelle parce qu'avant, quand on était en dictature, les gens avait certaines limites. Les femmes ne pouvaient pas travailler, les gens ne pouvaient pas créer des associations. Alors nous, on a jusqu'à maintenant cette culture-là et on ne peut pas faire d'autre chose parce que la question est vraiment culturelle.
On peut dire que ça a évolué jusqu'à maintenant. Oui. Non, on voit très bien qu'il y a des familles que la femme ou la fille, elle travaille comme elle veut, sans aucun problème. Mais ça dépend à la famille aussi.
Après le bac, je veux aller au Bordeaux pour finir mes études d'économie dans le management logistique et transport pour être une logicienne. Et je veux aussi faire un métier qui sera important pour l'Irak aussi parce que je veux bien visiter mes parents de temps en temps. Moi, je voulais être un designer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup mettre plein de vêtements et tout. Je disais tout le temps, je veux être un designer. Mais après, quand j'ai grandi, je dis, ici, ça ne sert à rien vraiment. Je ne peux pas être un designer. Alors, j'ai changé de métier. J'ai quelque chose de plus mature, je ne sais pas.
Eline, dès le début de l'année, a eu des facilités en philosophie. La manière qu'elle a de voir les choses, de les poser et de les questionner.
Je suis contente parce que ici, je ne vois pas un futur pour moi. Je ne pense pas que je peux être quelque chose d'important ou quelque chose d'unique, faire quelque chose qui est bien payé, parce que les femmes, le travail des femmes notamment, c'est très ignoré. Les femmes, peut-être si je grandis, mes parents me forcent à marier quelqu'un, je ne veux pas faire ça. Alors je veux bien quitter l'Irak et Kurdistan pour être plus indépendant aussi.
Et Eline est très excitée à l'idée de partir étudier en France.
Mes parents sont très tristes que je pars en France parce que même ils sont en train de faire des excuses. Non, ça ne fait pas dans nos cultures, tu ne peux pas aller. Mais parce que mes parents veulent que je reste avec eux, parce qu'ils ont aussi peur que je ne revienne pas. Mais moi, je leur assure, non, je vais venir et tout. Mais ils disent non, mais ils n'ont pas de choix vraiment parce que moi, je ne peux pas rester ici, et notamment avec les spécialités que j'ai prises, l'économie et l'anglais. Il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire ici. Et ici, si tu veux avoir un bon travail, tu dois faire la médecine ou être ingénieur de pétrole, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je pense que je n'ai pas un futur ici.
Est-ce qu'on peut manger une glace aussi?
Ah oui, c'est comme ça, c'est pas comme ça.
Essayez le pistache, c'est vraiment très connu ici.
Je me suis toujours dit que j'avais eu de la chance de finir le lycée avant l'apparition des réseaux sociaux. Et je me le suis dit une nouvelle fois, quand on a étudié Platon et le mythe de Prométhée. Vous savez, c'est le mythe où les dieux oublient de donner une qualité aux hommes, du coup ils se retrouvent nus et sans défense. Pour se rattraper, les dieux leur donnent l'art de la technique. On s'était alors demandé si un usage de la technique à outrance pouvait nous déshumaniser. On a alors parlé de ce qu'ils connaissent le mieux. Internet et les réseaux sociaux.
Je passe trop de temps sur Snapchat. Parfois, je parle avec mes amis, on joue des jeux sur Snapchat ou sur TikTok. Je ne suis pas trop sur Instagram. Mais ici, si tu postes quelque chose qui est en dehors des normes sociales ici, les autres vont se moquer de toi ou poster sur d'autres réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'avais un compte d'Instagram. C'était public et les autres, ils m'ont pris. J'ai pas posté des trucs nus, par exemple. Juste un truc normal, avec le maquillage et tout. Ils ont pris mes photos, ils ont posté sur TikTok. Et il y avait des millions de gens qu'ils ont vus. Après, tout le monde m'envoyait des messages. Ah, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Tu peux rien faire, tu peux même pas sortir. Les gens t'ont posté sur TikTok. Alors, c'est vraiment n'importe quoi. Et si tu peux rien faire sur les réseaux sociaux, ça doit tout être en privé et caché.
Dans des universités, si vous y allez, on voit très bien qu'il y a des gens, mais qu'on ne connaissait même pas, et qui prennent des photos des filles, surtout des filles, et qui mettent sur des faux comptes.
Les problèmes qu'engendrent les réseaux sociaux, c'est des problèmes qu'on rencontre nous aussi dans nos pays occidentaux. Le harcèlement, le suicide. Sauf que là, ça prend des proportions énormes. Pourquoi ? Parce que la culture n'est absolument pas la même que chez nous. Le rapport au corps, le rapport à l'autre, le rapport à sa communauté. Au Kurdistan, quand on agit publiquement, il faut pouvoir penser aux conséquences que cela peut avoir sur sa famille, sur sa tribu.
Ils vont prendre une photo et faire le Photoshop et après ils vont faire poster sur les réseaux sociaux. Et il y a par exemple des groupes avec des millions d'élèves et tout le monde va le voir. Et si les familles voient ces photos, ils vont tuer la fille. C'est le cas pour beaucoup de filles.
C'est directement tuer la fille, car ils vont dire que c'est ta faute. Même si les parents, il y a des parents qui ne disent pas que ah, c'est quelqu'un qui a fait ça. Ils vont dire que c'était à cause de toi. Pourquoi tu as mis tes photos sur cette compte? Oui, sur des réseaux sociaux. Alors que la fille, elle n'a rien fait. Pas du tout. Mais le problème, c'est que quand les filles ont leurs photos sur des comptes, ils vont avoir beaucoup de problèmes graves.
Mais pour les garçons, c'est pas grave.
C'est oui. Que pour les filles.
Quand on arrive à Erbil, l'impression qu'on a, c'est d'arriver dans une espèce de Las Vegas du Moyen-Orient, avec d'immenses buildings lumineux partout, et avec à côté un bazar traditionnel et une citadelle qui date de moins 7000 avant Jésus-Christ. Cette situation, elle est paradoxale. Et elle s'est immiscée partout au Kurdistan irakien, jusque dans la culture. L'invasion des Américains en 2003, la mondialisation ainsi qu'Internet ont répandu la culture occidentale comme une traînée de poudre, ce qui a créé une jeunesse un peu hybride. C'est le cas ici de Tara, Eline et Najla, entre autres, qui sont tiraillées entre leur culture kurde et ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux.
Mais on voit très bien que aussi il y a des garçons qui mettent des photos des filles sur les réseaux sociaux, que par exemple si la fille n'accepte pas le garçon ou si elle a quelque chose avec le garçon, il disait « Ah, si tu ne me fais pas ça ou si tu n'auras pas avec moi, je vais poster tes photos sur les réseaux sociaux. » Oui, c'est pour ça qu'il y a des fois que, par exemple, même si on a des comptes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas parler avec tout le monde pour n'avoir pas de problèmes. Sinon, nous aussi, on va avoir beaucoup de problèmes, même si notre compte est privé.
Puis, cela nous a amené à parler de la notion de justice. Est-ce qu'on doit l'exercer nous-mêmes pour qu'elle soit plus juste? Est-ce que finalement la loi du plus fort prime sur l'égalité des chances?
Et s'il y a trop de crimes d'honneur à cause de ces situations ici, parce que c'est toujours la faute de la fille. Les garçons ne prennent pas de responsabilité, même si dans beaucoup de cas c'est leur faute.
Ils disent que c'est la faute de fille.
D'après le site Foundation, c'est une association des femmes. 8169 femmes ont été victimes de crimes d'honneur en 2021 en Irak.
Tara a décidé de faire son grand oral du bac sur la place des femmes au Moyen-Orient et les difficultés qu'elles rencontrent. Elle était donc partie sur le terrain avec l'ONG SID Foundation qui vient en aide aux personnes ayant subi ou pouvant subir des violences.
Si une fille fait quelque chose qui n'est pas acceptable dans la famille, ils font le crime d'honneur, c'est-à-dire il tue sa fille pour l'honneur de la famille, pour la réputation, pour garder la réputation de la famille.
À peu près 30 femmes par jour, mais ça ne peut pas se passer ici, ça.
Chaque jour sur les réseaux sociaux, on voit qu'une femme était tuée par sa famille ou par un homme. Chaque jour, un, deux, trois. Oui.
C'est pas chaque jour, madame.
Oh non, c'est un chaque jour.
Regardez les nouvelles. On peut dire que c'est 4 fois par mois. 3 fois par mois, mais ça passe pas tous les jours. Même si c'est tous les jours, c'est une fois par jour, et non pas 30 fois par jour, madame. Cette statistique, mais ça marche pas.
Mais il y a une cimetière privée pour les femmes. Quand on le tue, on le met là-bas. Mais comme ça, on peut prendre le statistique aussi, vraiment. Par exemple, on le met dans une place, mais on ne met pas le nom, le chose, c'est comme ça, oui.
C'est que je pense que... Par exemple, si elle est tuée par sa famille, la famille ne veut pas que les gens sachent comme famille ont tué leur fille. C'est pour ça qu'ils mettent dans ce cimetière-là. Ils ont honte de que la société sache que leur fille a fait une chose grave ou quelque chose.
Il y avait des milliers de cimetières et on ne sait pas c'est qui est dedans. C'est que des femmes.
C'est surtout des filles et des femmes qui sont tuées par cette violence.
Malheureusement, l'autre chose que j'ai appris, c'est qu'au Kurdistan, le moindre sujet qui nous semble pourtant anodin se finit toujours par une histoire dramatique. Quand vous voyez Najla, Eline, Tara et même Aza, vous vous dites qu'ils pourraient tout à fait être des élèves français d'un lycée toulousain. La seule différence, c'est que la zone géographique dans laquelle ils ont grandi, et qui a connu des difficultés énormes, les a amenés à se construire d'une manière totalement différente. Ils ont développé une tolérance à certaines violences dont nous, Européens, sommes protégés.
On va tous passer notre bac cette année. On a déjà passé, mais il nous reste deux épreuves, le grand oral et la philosophie. Et j'espère qu'on va avoir notre bac dans 2 semaines. Et on est content de partir de cette école, mais vraiment, ça fait 12 ans qu'on est ici et
On a vécu tout comme la douleur, la joie, l'honneur, le bonheur, tout dans cette école. C'est pour ça, pour moi, personnellement, c'est une école importante.
Ce qui était compliqué au début, c'était de les amener à se poser des questions, à s'interroger sur ce qu'il se passe autour d'eux, mais aussi ce qu'il se passe chez eux et en eux. Qu'est-ce qu'une culture ? Est-ce qu'une religion est une partie de la culture ? Ou est-ce que c'est quelque chose de différent ? C'est Najla la première qui m'a dit qu'elle commençait à se poser des questions.
Moi, je peux dire qu'après la philo que j'ai travaillé, car vraiment jusqu'à 16 ans, je ne savais même pas ça veut dire quoi philosophie. Avec cette année que j'ai travaillé en philo, je me posais des questions, surtout sur la religion, sur la vie, et sur la nature, sur l'environnement, que comment écrire cette vie qu'on est maintenant dedans, cette terre qu'on est dedans maintenant. Sinon, avant, je n'avais même pas envie de poser des questions. J'avais même pas l'envie de, par exemple, de me poser des questions sur ça. C'était quelque chose de normal pour moi. Car je suis dans une culture que je dois accepter ce que les anciens me disent.
Par exemple, moi, j'ai un petit frère, il est à 7 ans. Il est à l'âge où il pose beaucoup de questions. Alors, quand il pose la question à mes parents, qui a créé les arbres, qui a créé la nature, par exemple, la réponse est toujours, c'est Dieu. Alors, il va grandir et lui aussi, il va dire à ses enfants que c'est Dieu aussi. Mais aussi dans le livre religieux, le Coran, il y a beaucoup de choses qui sont scientifiquement prouvées. Alors nous, on ne se pose pas vraiment des questions. On dit, ok, c'est écrit comme ça, alors c'est comme ça. Je pense qu'on mélange trop la religion avec la culture.
Oui.
Parfois, on fait des choses que les gens disent, c'est la religion, mais en fait, c'est la culture. Question de femme, par exemple. Dans le Coran, la femme a beaucoup de la liberté. La femme d'un de notre prophète était une femme commerce. Elle faisait le commerce et c'était elle qui a proposé au prophète le mariage. Alors les femmes ont vraiment beaucoup de liberté dans l'islam, mais c'est culturellement...
dans notre société.
Oui, culturellement, c'est très changé. Par exemple, il dit que les femmes ne doivent pas sortir parce que, à cause de la religion. La femme doit se voiler à cause de la religion. Mais dans le Coran, c'est écrit que la femme a le choix de mettre la voile ou de ne le pas mettre.
Souvent, on pense que la philosophie est quelque chose d'extrêmement complexe, qui n'a aucune connexion avec notre réalité, notre quotidien. Bon, c'est vrai, ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est en faisant les ponts avec notre vie de tous les jours qu'on peut comprendre des notions qui, à la base, nous semblaient incompréhensibles. La philosophie n'existerait pas sans une réalité. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup parlé en classe de leur quotidien, de ce qu'ils ont vécu, de ce qui les a marqués. L'Irak et le Kurdistan ont connu de nombreuses guerres et crises. Les filles, elles, se rappellent surtout de la guerre contre Daesh. En 2014, ils ont pris Mossoul à 80 km d'Erbil et en ont fait leur capitale jusqu'à la libération de la ville en 2017. Eline nous a raconté comment ça se passait chez elle quand c'est arrivé.
Je me souviens, tous les soirs, on s'assoit sur le canapé devant la télé. Mmh. Chaque jour, il se passait quelque chose. Un peshmerga a été tué.
Peshmerga, c'est le nom qui est donné aux combattants kurdes. Littéralement, ça signifie « avant la mort ».
Je me souviens, il y a des fois, ma mère, elle était en train de pleurer parce qu'on avait vraiment peur de Daesh, parce que et d'autres pays ne nous aidaient pas, alors on était vraiment toutes seules, sans aucun chose.
Oui, on voyait beaucoup de peshmerga qui étaient morts et qu'ils étaient aussi dans notre famille. C'était vraiment une période vraiment grave pour nous. On était dans une situation douloureuse. On ne pouvait même pas avoir, par exemple, des fêtes. On avait tout le temps la peur. Par exemple, tout le temps, ma mère disait que « Ah, j'ai des enfants dans chaque école. Alors, si un jour que Daesh vient à Erbil et que je ne peux pas prendre tous mes enfants, ils vont le voler ou ils vont le prendre. » Alors, on avait tout le temps la peur avec nous.
À tout moment, on était très conscients, on regardait autour de nous, on ne doit pas aller à certaines places parce que Daesh pouvait attaquer nous. Une fois, ils étaient vraiment très proches et vraiment, moi, je me souviens, j'avais très peur, j'étais en train de pleurer et je me suis cachée sous mon lit. J'ai dit non, s'il vient, ils ne peuvent pas me trouver.
Oui.
Comme enfant, à cet âge,
normalement, on ne doit pas vraiment avoir l'expérience de ce genre de trucs. C'est des choses qui n'étaient pas normales pour quelqu'un de notre âge à expérimenter, parce que les gens de notre âge allaient sortir, jouer et ne restaient pas devant le télé toute la journée.
C'était vraiment une période très douloureuse pour nous, qu'on ne pouvait pas penser à d'autres choses que la guerre.
Mes parents, ils ont été très très tristes quand ils vont voir un de pêche morgue, ils ont mort. Mais moi, j'étais en train de rigoler. Une fois, ma mère, elle me dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, car je m'en fous. Un jour, on va mourir. Pourquoi on doit être triste? Ou on doit avoir le peur? Elle m'a dit, laisse-le. Oui, je m'en fiche. Car un jour, je vais mourir. Pourquoi je dois avoir peur?
Comme à la fin de toutes les guerres, une crise économique a frappé le pays en 2017. C'était il y a à peine 5 ans.
C'est catastrophique. Jusqu'à maintenant, la crise a influencé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas de salaire jusqu'aux 4 mois aussi. Oui. Les gens étaient en pauvreté, ils ne pouvaient pas rien acheter. Et il y avait des gens qui n'avaient rien à manger aussi.
Oui. Alors qu'avant, en 2014, vraiment, on était dans une situation très bien, que les gens peuvent, qu'ils ont eu leur salaire à chaque mois, ou que la situation était très bien, mais avec la guerre de Daesh, situation, elle est vraiment diminuée, pour la pauvreté, pour le chômage, et que les gens ne recevaient pas leur salaire pendant maintenant 6
aussi.
Mois.
Maintenant oui. aussi, dans 2 mois, ils ont voir son salaire, oui, et parfois, c'est la moitié de son salaire.
Ce que nous dit Najla, c'est que la plupart des fonctionnaires du pays n'ont pas pu toucher leur salaire pendant plusieurs mois. Le gouvernement n'avait pas les fonds suffisants pour les payer. Beaucoup de gens ont dû s'organiser pour survivre. Et ce qui est fou, c'est que le pays a quand même continué à fonctionner. La débrouille, c'est vraiment une compétence kurde.
Et un salaire, c'est à peu près combien ici?
À peu près 800 000.
Ou... On peut dire 500 jusqu'à 1000.
Oui. Si t'es un employé de gouvernement, tu reçois ou 500, 600, entre 500 jusqu'à 800 000.
Il y a des personnes qui les ont eu 300 000.
Oui, 300 000.
Dinars.
Dinars. 200 dollars.
200 dollars.
200 dollars.
Et ici, on est des familles très grandes. Chacun a au moins 5 enfants.
Oui.
Alors, c'était une situation catastrophique pour eux parce qu'ils n'avaient vraiment rien à manger.
Sénèque disait... Tout nous échappe, il n'y a que le temps qui soit nôtre. C'est ce qu'on a étudié lorsqu'on a abordé la notion du temps. Les filles semblent déjà avoir bien compris cette théorie, puisque malgré le fait qu'elles soient encore adolescentes, elles ont déjà en tête ce qu'elles veulent faire plus tard, et quels sont les moyens qu'elles doivent mettre en œuvre pour y arriver.
Dans 10 ans, j'espère que j'ai déjà fini mes études et j'ai mon dream job. Je pense que je serai riche aussi. Pour mes parents, parce que je les promis que je serai très très riche et je vais payer tout pour eux, parce que mes parents ont vraiment beaucoup consacré leur temps pour que je reçoive une éducation. Alors j'ai dit, je promets, je vais avoir un bon travail et je vais retourner en Irak, je vais être très riche pour vous et je serai heureuse, je pense.
Est-ce que tu es sûre que tu vas revenir?
Je ne suis pas sûre que je vais retourner en Irak, mais des visites parfois, parce que je n'ai vraiment pas envie de retourner en Irak. Pas du tout. Mais pour ma famille, je suis obligée de retourner de temps en temps.
Dans 10 ans, je vais être 28 ans. Alors, j'espère que je vais finir mes études et je vais avoir mon diplôme. Je vais avoir aussi avec ça mon doctorat et le master aussi. Surtout... Moi, je vais travailler pour la Sciences Po. Alors, je veux devenir une femme politique. Et surtout, ma rêve, c'est de devenir l'ambassadrice de l'Irak au Canada. Et que pour ma famille, surtout mon père, ça va être quelque chose de vraiment important pour lui de finir mes études et d'être ce que moi, je veux. Car il va être vraiment content de ma situation. Important.
Dans 10 ans, à mon avis, j'ai fini mes études avec une très bonne bac plus 5 et j'ai mon travail. Je suis dans une condition très bien. Mais en général, moi, je ne veux pas retourner en Kurdistan. Et dans une autre part, je ne veux pas que faire mon travail. Je veux aider en général les femmes qu'ils ont dans une situation très très mal. Et c'est tout.
ça c'est mon rêve. Oui.
Cette dernière sortie, elle est un peu émouvante en vrai, parce que c'est la dernière fois qu'on se voit. Le Kurdistan, c'est pas un pays où on retourne en vacances. Quand vous partez, il y a de grandes chances pour que les gens à qui vous dites au revoir, ce soit la dernière fois que vous les voyez de votre vie. Et aussi, je sais pas si je vais pouvoir de sitôt réenseigner la philosophie dans un environnement aussi riche qui, moi, m'a permis de chambouler ma structure de la vision du monde. Heureusement, Eline et Tara sont arrivées en France 2 semaines avant que je décolle pour un autre pays. On a donc pu se retrouver à Bordeaux. J'avais hâte d'écouter leurs premiers ressentis sur la France. Je suis allée les récupérer à la sortie des cours, un lundi soir à 18h. On s'est sauté dans les bras, on était toutes contentes de pouvoir enfin se retrouver en France, 4 mois après les résultats du bac. On est parties toutes les trois dans le parc d'à côté pour s'asseoir dans l'herbe.
Allez, moi j'ai trop envie de savoir comment ça s'est passé le départ.
Alors c'était... On a beaucoup pleuré avec nos parents. On a tous pleuré beaucoup, beaucoup. Après on est partis. En fait, c'était notre première fois voyager. Première fois. Alors quand on est partis à Vienne, on ne savait pas quoi faire parce qu'on devait rester là-bas pour 14 heures. On ne pouvait pas dormir, on ne pouvait rien faire, juste s'asseoir. Après ça, on est parti à Francfort. Là-bas, on devait rester 9 heures, je pense. Après, l'oncle de Tara est arrivé, on est parti ensemble à Bordeaux. Premier jour qu'on était arrivé, j'étais tellement triste parce que c'était un nouveau environnement. Et c'était le dimanche, alors il n'y avait personne. Et je pensais que c'était toujours comme ça.
Le dimanche est un jour chrétien en Irak et au Kurdistan. C'est donc un jour travaillé. Là-bas, le week-end, c'est le vendredi et le samedi.
Je voulais vraiment pleurer. J'avais pas de mood ce jour-là.
Tu avais de depression. Une dépression.
Et toi, tu l'as eu, la dépression?
Moi, tu moitié. Mais après, quand j'ai mangé, c'était mieux.
Il y avait du monde, il y avait beaucoup de famille pour vous accompagner?
Non, que ma famille. Il y avait ma mère, mon père. 4 personnes.
C'était ma famille avec ma grand-mère, c'est tout. Mais c'est bien, c'est ils tout. Ont tous pleuré.
Vous avez mangé de la nourriture française ou vous
oui,
avez mangé...
Madonna.
C'est vrai?
Non, on a mangé des burgers pour 5 jours. On n'a pas mangé...
que fast-food.
On a que mangé du fast-food, vraiment. Aujourd'hui, on est parti au McDo, on a mangé des burgers.
Ah non, c'est vrai, c'est pas du tout de la nourriture française, ça.
On voulait tellement goûter du riz et du kebab et du viande. On est parti dans un restaurant turc et on a mangé des kebabs et des tka, du poulet.
Une semaine avant que je les retrouve, Tara et Eline m'avaient appelée. Elles n'arrivaient pas à avoir leur logement du Crous. Elles ont dû errer dans différents hôtels avant de pouvoir enfin obtenir leurs clés.
Au début, on est parti. On ne savait pas trop comment ça marche. On pensait que quand on vient en France, on reste à l'hôtel pour quelques jours. Après, on peut aller au Crous. Mais en fait, on devait remplir des documents et tout. Et en fait, c'était trop mélangé parce qu'on avait besoin de responsabilité civile, assurance. Et ça, on doit le faire aux banques. On est parti aux quelques banques, ils ont dit c'est interdit parce qu'on a le passeport irakien. Donc plusieurs banques, on a essayé, ils ont dit non, c'est interdit. Et dans d'autres banques, ils ont dit on ne peut pas créer des comptes bancaires parce que c'est l'été. Alors normalement, on devait rester à l'hôtel pour juste peut-être 3 ou 4 jours. Alors ça faisait beaucoup de problèmes parce qu'au Crous, ils ne nous donnaient que 7 jours pour finir l'inscription. Et la banque, ils disaient non, on n'a pas de temps. Pour le deuxième jour qu'on était à l'hôtel, je suis réveillée, j'avais mal aux pieds. J'ai regardé, j'ai plein d'allergies sur tous mes pieds. Après, je suis partie au pharmacie. Il m'a dit, est-ce que tu as changé de lit? Moi, j'ai dit non, je suis à l'hôtel. Il dit, ah, c'est ça, parce qu'il a dit qu'il y a des insectes dans le lit. C'était sur mon dos et ça grattait, c'était vraiment horrible.
Non, mais alors, du coup, là, depuis que vous êtes arrivée en France, qu'est-ce que vous aimez le plus?
Moi, habiller comme je veux, acheter comme je veux. Quand j'étais au Kurdistan aussi, je pouvais acheter comme je veux, mais là, j'achète des habits manés. Ça veut dire que moi, je choisis comme je veux. Je suis plus libre pour choisir. Oui.
Même si au Kurdistan, le voile n'est pas obligatoire, les vêtements très courts, très colorés, ne sont pas une habitude culturelle.
Ils vous appellent d'ailleurs vos parents?
Oui, fois par jour au plus. Et tous les jours, ma mère, elle me dit, qu'est-ce que tu as habillé? Je le montre, après je change mes habits.
Ta mère, elle te demande des photos de toi?
Oui.
Et toi, tes parents, ils t'embêtent pas sur les vêtements et tout?
En fait, non. En fait, ils ne parlent même pas. Ils me appellent beaucoup, mais chaque fois, c'est 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais ça, je suis en train de manger. Je dis, ok, bye bye. C'est tout. Et parfois, je pleure, je dis, mais vous me manquez tellement, pourquoi vous ne parlez pas avec moi? Il dit, non, non, c'est pas grave, allez, allez. Et il end the call.
Est-ce que vous aimez le moins, là, depuis que vous êtes arrivée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent pas?
Parfois, je sais pas. On n'a pas d'émotion, vraiment, pas du tout. Je sais, je suis pas heureuse, je suis pas triste, je sais pas. Pourquoi je suis en train de vivre? Oui.
C'est la conscience.
Vraiment, c'est comme ça.
C'est vrai, tu ressens rien?
Oui. Je sais, je regarde les gens, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, je sais pas. Mais parfois, je suis contente, très contente, et parfois, je suis triste, parfois, je pleure. Oui.
Parfois, je suis tellement contente, je dis, ah, je suis finalement indépendante, je suis toute seule, je peux faire ce que je veux. Mais parfois aussi, je dis, ah, mais quand j'étais en Irak, c'était mon père qui fait tout pour moi. S'il y a un document, c'est mon père qui me prend par la voiture. Tout était facile là-bas, mais ici, tu dois te faire tout, toute seule. C'est parfois, c'est un peu difficile.
Et vous êtes fait des copains, du coup, dans votre école, là?
En fait, le premier jour, on a joué quelques jeux. On devait être en groupe, alors on était dans un groupe avec 3 garçons. Mmh. On a fait... C'est 50-50, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement des amis, mais on dit bonjour et tout, tous les jours. Mmh. Et chaque fois qu'on va dans la classe, les profs nous disent « Vous êtes les étudiants irakiennes ?» Chaque fois, « Mais pourquoi tu dis irakiennes ?» Parce que les autres nous regardent comme « Vous êtes irakiennes ?» Parfois, je pense qu'ils sont racistes aussi. Parce qu'il y avait une prof, elle était tellement souriante avec les autres et chaque fois elle était en train de faire l'appel. Après, chaque étudiant qui dit « Ah non, vous avez dit mon nom ne prononce pas comme ça, c'est comme ça », il rigolait avec elle. Et après, il m'a dit « Ilan ». Je dis « Non madame, c'est Ilin ». Elle m'a regardé comme ça et c'est parti. Je dis « Mais pourquoi moi ?»
Quand on parle avec elle aussi, elle est très méchante, vraiment. Il y a deux dames, oh madame, vraiment très très méchantes, très bizarres. Ils nous parlent comme on est des esclaves, vraiment. Ils nous parlent, ils nous crient, mais c'est pas grave, c'est la vie.
Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, nous sommes toujours confrontés à une différence culturelle, parfois dans les choses les plus anodines. Le regard qu'on peut porter sur les autres, par exemple.
En fait, si tu regardes quelqu'un, parce qu'on est tellement habitué à regarder les gens en Irak, ici, c'est pas normal de regarder quelqu'un. Si tu regardes quelqu'un, ils vont te crier dessus. Avant, deuxième jour, on était allé rue Sainte-Catherine. Il y avait un monsieur qui était assis, il était en train de dormir sur la rue. Et je lui regardais, il a commencé à me crier dessus. Pourquoi tu me regardes? Il a commencé à courir vers moi. J'avais tellement peur, Mais j'ai que lui regarder, j'ai rien fait. Mais ici, après, j'ai vu que ici, c'était pas normal de regarder les gens.
Ce qui change aussi avec le Kurdistan, c'est la météo. Ce jour-là, quand on s'est retrouvés, il faisait 40 degrés.
On est l'opposé de tout le monde. Le jour qu'on décide de mettre un gilet ou quelque chose, les autres, ils ont tous un t-shirt. Ou le jour qu'on met un t-shirt, les autres ont des gilets et tout ça. Et on le trouve très très bizarre. On dit, mais pourquoi? C'est vraiment très très bizarre. On ira, il fait ou très très chaud ou très très froid. Il n'y a pas au milieu.
Puis, 15 minutes plus tard.
Ah, il y a mon bus.
Ok.
Allez, voilà.
Va les filles.
Au revoir, madame. Au revoir, vite.
J'ai donc dû partir comme une voleuse, sauter dans mon bus pour ensuite prendre mon Ouigo. J'étais trempée comme une soupe et sur le chemin de la gare, je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste et énervée. J'étais sidérée par l'accueil qu'Eline et Tara avaient reçu. Un accueil diamétralement opposé à celui qu'on reçoit au Kurdistan. J'ai rarement été aussi bien accueillie dans un pays. Toutes les familles sont prêtes à vous ouvrir leurs portes. J'espérais qu'une chose, c'est que ça allait être plus facile de l'autre côté de l'Atlantique pour Najla. Son départ pour le Québec était prévu pour le mois de septembre, mais il a été retardé pour des histoires de visa. Elle a seulement pu décoller en décembre dernier, il y a à peine un petit mois.
On a continué à se parler sur WhatsApp.
Bonsoir madame, comment ça va? J'espère que vous allez bien.
Elle m'a raconté les préparatifs de son départ.
Tous les samedis, j'étais au bazar, j'étais dans des endroits pour acheter des trucs. Alors, dans ce temps, j'ai fait une bêtise. Ma bêtise, c'était que j'ai que acheté des vêtements, des sacs, de maquillage. J'ai acheté 17 parfums. Les 17 parfums, je prenais avec moi.
Il m'a envoyé des photos de sa chambre. Un vrai Capharnaüm.
Mais vraiment, vraiment, c'est une catastrophe pour moi car j'ai beaucoup de trucs. J'ai une situation, c'est que moi j'achète beaucoup, mais j'utilise pas.
Il faut dire aussi que Najla est la seule fille de sa fratrie. Elle est donc très choyée par ses frères, mais aussi par ses deux parents. Elle a aussi la chance de pouvoir rejoindre son grand frère qui lui est déjà installé à Montréal pour ses études. C'est donc après 4 mois d'attente sans fin et de galères administratives que Najla s'envole enfin pour le Québec.
Coucou, je voulais vous dire que tout est préparé. Je suis maintenant dans l'aéroport d'Erbil. Oh, je ne suis pas si stressée, je ne sais pas pourquoi. Il y avait ma mère aussi avec moi, mon père aussi, ma famille, ils étaient venus avec moi. Tout d'abord, ma mère, elle m'a dit que je ne vais pas venir. Mais comme je lui ai demandé, s'il vous plaît, maman, viens, c'est la dernière fois que tu me vois. Enfin, elle s'est venue avec moi, mais elle a pleuré aussi. Elle a vraiment pleuré, elle était vraiment triste. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je peux pleurer. Je pense que je suis contente que je vais partir à Montréal. Mais je suis triste pour ma mère, car vraiment, comme j'étais la seule à la maison et la seule fille, elle disait « qu'est-ce que je pourrais faire après toi ?»
Najla était toute excitée à l'idée de passer les fêtes de fin d'année sous la neige, comme on peut l'imaginer dans des films américains.
« Coucou Najla, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es bien arrivée, j'espère que ton frère t'a bien récupéré. »
Même si à Erbil, le quartier chrétien est décoré pour l'occasion, le moins qu'on puisse dire, c'est que les décorations sont plutôt sommaires. On ne peut pas parler de magie de Noël à Erbil.
Coucou madame, comment ça va? Ça va bien? Je suis trop bien maintenant, je suis à la maison de chez mon frère. Il neige maintenant ici. Vraiment c'est joli et c'est, comment dire, trop beau. Tous les rues ont des décorations, sont décorées par des trucs, tout ça.
Elle arrive juste à temps pour commencer son deuxième semestre fin janvier.
Ah oui madame, c'est 8h du matin, on a mangé. En fait, maintenant, je vais découvrir mon université tout d'abord. Après, il y a des trucs que je dois acheter. Le problème, c'est qu'il neige et il fait vraiment froid. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de sortir. Alors, madame, je vais visiter mon université. Vraiment, vraiment, je vous dis la vérité. C'est incroyable.
Coucou Najla, juste pour savoir comment ton Noël s'était bien passé, il me semblait que...
Noël n'est pas la fête la plus importante pour les familles kurdes. La plupart ne la fêtent même pas. C'était donc une première pour Najla, une première culinaire aussi.
J'espère que tu as bien mangé.
J'ai mangé de la poulet, mais moi j'ai jamais mangé une poulet comme ça à Erbil, c'est-à-dire. C'était vraiment trop bon. Aussi sur la table, il y avait des types de fromage. Tous les fromages. Alors j'ai mangé tous les types de fromage français. Ah, madame. Il y avait des biscuits qui ont décoré. Vraiment, c'était trop joli. C'était des biscuits avec la décoration de Noël.
Depuis qu'elle est arrivée, il y a déjà plusieurs choses qui l'ont marquée.
Ah oui, madame, pour l'accent québécois, quand j'étais à Erbil, beaucoup de gens m'ont dit que quand tu arrives à Montréal, tu ne vas même pas comprendre leur accent qu'ils parlent en français. Mais moi, je n'ai pas changé mon accent avec les Québécois. C'est-à-dire quand quelqu'un me parle qui est Québécois, je le comprends très bien. Et moi, je parle comme ça, comme la française.
À Erbil, déjà, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de transport en commun. Les SDF se font également plus rares. Tout simplement parce que la société est une société plus communautaire. Une famille prendra toujours en charge l'un des siens, sauf en cas d'extrême conflit.
Quand tu prends le métro, dans le métro, il y a des gens qui sont dormis. Alors j'ai posé la question à Ismaël, à mon frère. Je lui ai demandé pourquoi ils sont ici. J'ai dit même, mais il n'y a pas des organisations qui peuvent les prendre et les aider. Il m'a dit oui, il y a des organisations et des associations qui veulent aider ces gens-là qui sont pauvres et qui dorment. Dans les rues ou dans des métros, tout ça. Mais ces gens-là n'acceptent pas. Ils voulaient cette vie-là. C'était vraiment bizarre pour moi car c'était des gens vieilles, même des femmes, des hommes. Et aussi, il n'y avait pas des enfants. Ah, une autre chose qui m'a fait... qui était intéressante pour moi, c'est que voilà, ici, quand tu vois des couples, c'est que, par exemple, c'est un garçon français qui est avec une fille chinoise. Oh, madame, vraiment, pour moi, c'était intéressant. Ou québécois avec une française. Ou, par exemple, une arabe avec un français. Dans notre société, par exemple, c'est de la honte. C'est, par exemple, sur les rues, dans des endroits, par exemple, d'embrasser ou tout ça. Mais ici, c'est vraiment normal.
D'un point de vue du confort aussi, il y a certaines différences. Au Kurdistan, les maisons ne sont pas isolées. Il fait la même température dehors que dedans. Aussi, il n'y a pas d'électricité toute la journée. Il y a un roulement qui se fait avec des générateurs, mais l'utilisation est très limitée.
C'est que ici, oui, c'est vrai qu'il fait froid. Mais quand tu es à l'extérieur de la maison, tu n'as aucun problème. C'est qu'il fait vraiment si chaud que même s'il fait vraiment, vraiment froid, tu ne le sens même pas. Et d'autre chose, c'est que tout le temps, l'eau est chaude. troisième chose, c'est que l'électricité est tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas comme Erbil. Il y a aussi d'autres choses que j'ai préférées. C'est que moi, madame, à Erbil, oui, je savais, oui, que j'ai fait mes 12 ans en français dans une école française, alors que les gens parlent aussi en kurde. Mais ici, ah madame, maintenant, je parle en français, en anglais. C'est vraiment génial pour moi, car à Erbil, je devais parler que en kurde.
Alors, ça fait pas longtemps que je suis arrivée, mais je me sens une personne un peu changée par rapport à la situation que j'ai vécue. Je peux vous dire que les idées et les opinions que j'avais à Erbil, j'ai laissé tomber à Erbil. Et que maintenant, comme je suis au Canada et que j'ai vécu des différentes choses, même mes idées et mes opinions sont changées.
Épicure disait, la sagesse ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples, elles, survivent aux ouragans. Je crois qu'Eline, Tara et Najla sont trois plantes souples en chemin vers la sagesse. Mais contrairement à ce qu'affirme Épicure, elles ont su, et savent aussi résister au vent quand c'est nécessaire.
Eline, Tara et Najla, des rives philosophiques au Kurdistan. Un documentaire de Tessa Robinson et Alexandre Planck. Prise de son et montage, Tessa Robinson et Alexandre Planck. Mixage, Antoine Villosa. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron. دي ساجو يلبام رابونه كلو دديمه دي ساجو يلبام رابونه كلو دديمه خانمم برمريم رنديت روشا مالامن خانمم برمريم رنديت خملا مالامن خانمم وربام رونيا هر دو چاوي خانم من